VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se réunissent ce mardi à Lomé pour discuter de la crise politique qui secoue le Togo depuis près d'un an, après des mois de négociations au point mort entre le pouvoir et l'opposition togolaise. Officiellement, l'intitulé du programme d'aujourd'hui est « La situation socio-politique et économique de la sous-région d'Afrique de l'Ouest ». Mais les discussions devraient porter essentiellement sur la crise togolaise ainsi que sur la situation politique en Guinée-Bissau. Les participants comptent également faire le point sur l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce week-end au Mali. Au Mali même, le dépouillement du scrutin continue après le premier tour de l'élection présidentielle. Les observateurs déplorent les incidents qui ont eu lieu pendant le vote, de même que ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. De Bamako, le compte-rendu de notre envoyé spécial Jacques Aristide.
Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Kansoutou Sidibé est membre de l'équipe de campagne.
Oh que oui, je suis confiante. Parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en Ibeka. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme.
À deux pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Nuhum Togo est directeur de communication de l'équipe de campagne.
Vous avez la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement. Tant souhaité par le Malien lambda que veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change.
Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés et maintenant les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Les membres du pool d'observation du Mali sont toujours à pied d'œuvre. Ibrahima Sango, président du POSIM.
Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitutionnelle va publier les résultats définitifs. Donc nous, on a des tendances, on a des trucs, mais on n'est pas habilité à la communiquer.
Oui, donc des tendances. Va-t-on vers un second tour?
On le croit.
Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
République démocratique du Congo, l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a officiellement demandé l'autorisation de rentrer le 3 août en RDC, où il compte déposer avant la date butoir du 8 août sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Les détails avec Eric Manirakiza.
L'ex-gouverneur du Katanga a saisi la direction de l'autorité de l'aviation civile congolaise pour lui permettre d'atterrir en jet privé vendredi 3 août à l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la RDC. Tous les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 8 août. Monsieur Katumbi, qui se trouve actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, ne pourra pas le faire de l'étranger. Il a indiqué qu'il est prêt à passer par voie terrestre via la Zambie si sa demande était refusée. Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Il est également poursuivi pour recrutement de mercenaires et la Cour suprême a renvoyé le procès au 10 octobre. Ancien bras droit du président Joseph Kabila, M. Katumbi est passé à l'opposition en 2015.
Pour sa part, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, le mouvement de libération du Congo, a annoncé son retour en RDC pour demain, mercredi. Il atterrira à Kinshasa en provenance de Bruxelles. Référendum constitutionnel aux Comores, l'opposition qui avait jugé le scrutin de lundi illégal dénonce aujourd'hui un trucage après l'annonce des premiers résultats du vote par le journal d'État Al Watan. Selon ce dernier, qui cite le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou, le oui arrive largement en tête après dépouillement de près de 70% des bureaux de vote et le taux de participation aurait été de 63%. Réaction du secrétaire général du parti du roi, Ahmed Al-Bahran. Il s'agit d'un scrutin truqué et de chiffres préfabriqués, a-t-il souligné. Rappelons que lundi, les Comoriens étaient appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani, élu en 2016, de se représenter pour deux autres mandats consécutifs. L'opposition dénonce depuis des mois les abus de pouvoir du président Azali, un ancien putschiste, et elle avait demandé à la population de boycotter le référendum.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République centrafricaine, l'Union européenne a décidé lundi de prolonger pour deux ans sa mission militaire de formation en RCA. Son mandat est étendu jusqu'au 19 septembre 2020. De Bangui pour VOA Afrique, le compte rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
En plus de cette prolongation, le Conseil de l'Union européenne a également modifié le mandat de la mission. Son domaine d'intervention s'étend désormais sur plusieurs volets. EUTM-RCA peut donner des conseils stratégiques non seulement au ministère de la Défense, au personnel militaire et aux forces armées centrafricaines, mais aussi au cabinet du président de la République. Cette collaboration devra se faire aussi sur la coopération entre civils et militaires, y compris au ministère de l'Intérieur. Le Conseil a débloqué une enveloppe d'environ 25,4 millions d'euros pour les coûts d'EUTM-RCA qui est basée à Bangui pour la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020. Cette mission d'entraînement et de formation de l'armée centrafricaine a été lancée le 16 juillet 2016. Elle compte environ 170 personnes. Au terme de son premier mandat de deux ans, l'EUTM a formé et entraîné plus de 3000 soldats centrafricains. Cette décision intervient au moment où plusieurs régions du nord du pays échappe au contrôle de Bangui, car morcelé par des groupes armés qui y pillent les ressources naturelles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Relations États-Unis-Rwanda, Washington a suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda, répondant ainsi aux droits de douane imposés par Kigali sur les importations de vêtements d'occasion, accusés de nuire à l'industrie textile locale. Initialement, les pays d'Afrique de l'Est étaient unis dans la lutte contre ce marché de l'occasion. Mais leur alliance dans ce domaine s'est craquelée quand le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont reculé devant la crainte d'être sanctionnés par Washington. Les produits affectés ne représentaient en 2017 que 3% des exportations rwandaises aux États-Unis pour une valeur de près $1,5 million. Actualité américaine toujours, rencontre à la Maison-Blanche lundi entre le président américain Donald Trump et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Il a beaucoup été question de politique étrangère, notamment de la Russie et de l'Iran. Les détails avec Nicolas Bineau.
Très offensif face à la presse, le président Trump a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie seraient maintenues dans l'état. De son côté, Giuseppe Conte s'est dit favorable à des discussions avec la Russie. Sur l'Iran, le président américain s'est dit ouvert à une rencontre avec les dirigeants iraniens quand ils veulent, sans conditions préalables. Une main tendue qui tranche avec les déclarations belliqueuses de Washington et Téhéran la semaine dernière, où par déclaration interposée, Hassan Rouhani et Donald Trump se mettaient chacun en garde contre toute provocation. Sur le plan intérieur, Donald Trump a réitéré sa menace de laisser le gouvernement fédéral fermé s'il n'obtenait pas les fonds pour la construction d'un mur de sécurité à la frontière mexicaine. Le temps presse pour les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat, mais qui pourraient perdre l'une des deux chambres du Congrès suite aux élections de mi-mandat en novembre prochain.
L'Iran a réagi à l'offre de pourparlers du président Trump en soulignant que le chemin menant à des discussions directes avec Washington devra inclure le retour des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien dont s'est retiré officiellement le chef de l'exécutif américain et aussi la réduction des hostilités pour citer un conseiller du président iranien Hassan Rouhani. Et pour terminer, conflit en Syrie, l'émissaire de l'ONU sur la Syrie a l'intention d'organiser début septembre à Genève une réunion avec la Russie, l'Iran et la Turquie sur la formation d'un comité constitutionnel chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution. Pour l'émissaire de l'ONU, ce comité est un élément clé vers une résolution du conflit syrien qui a fait plus de 350 000 morts depuis mars 2011.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.